Voilà, vous m'entendez? C'est bon? Voilà, j'ai commencé il y a quelques semaines, quelques mois même, une série de messages dans mon église sur les questions que Jésus pose dans les évangiles. Et ce matin, je vous propose d'en considérer une que vous connaissez certainement, et d'essayer de la comprendre, de prendre le temps de la méditer pour la comprendre. Elle se trouve dans un passage bien connu, très connu même de l'Évangile, où il se passe quelque chose en réalité d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire parce que dans ce passage, Pierre marche sur l'eau. C'est banal si on connaît l'Évangile d'une certaine manière, mais en réalité, si on réfléchit bien, c'est vraiment extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Mais malheureusement, cet exploit de Pierre ne dure qu'un temps. Et rapidement, il se met à couler. Et alors qu'il s'enfonce dans l'eau, il s'écrie « Seigneur, sauve-moi ». Et aussitôt, dit le texte, aussitôt, Jésus lui saisit la main. Et c'est à l'issue de ce sauvetage que Jésus va poser la question qui va nous intéresser ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de cette question. Vous avez en tête ? Comment ? Pourquoi as-tu douté ? Exactement. Et avant cette question, il rajoute ces paroles, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc je vous propose ce matin de réfléchir à la réalité, à la problématique du doute, et en particulier à la question du doute qui vient parasiter notre foi. Je vous invite à lire avec moi, le texte va s'afficher. Ce texte qui se trouve, si vous voulez suivre dans vos Bibles, dans Matthieu 14, je lis à partir du verset 22. Et je lis dans la traduction de la Nouvelle Bible Second. Matthieu 14, versets 22 à 33. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »« Viens, dit-il. » Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment fils de Dieu !» Avant d'en arriver à cette question du doute, j'aimerais que nous prenions le temps de cheminer dans le texte pour bien comprendre ce qui se passe dans ce texte et bien comprendre ce qui amène cette question de Jésus, ce qui va conduire à notre question. C'est donc notre deuxième point, les éléments qui conduisent à notre question. Et vous l'avez sans doute remarqué, notre passage, notre histoire commence avec une obligation. La mention d'une obligation, nous lisons que Jésus oblige littéralement les disciples à monter dans le bateau pour le précéder sur l'autre rive. Et la question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser ici, c'est pourquoi cette obligation ? Pourquoi pas simplement une invitation ? Pourquoi cette contrainte ? À vrai dire, le texte ne donne pas d'explication, mais nous pouvons certainement émettre quelques hypothèses. Alors peut-être que les disciples sont réticents pour des raisons objectives comme la fatigue ou la nuit qui approche. Et ça ne leur semble pas raisonnable de faire cette traversée à ce moment-là, peut-être. Peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas envie de quitter les lieux bénis du miracle extraordinaire qui vient d'avoir lieu, c'est juste avant le miracle de la multiplication de 5 pains et 2 poissons pour nourrir une énorme foule, une grande foule. Un peu à l'image de Pierre qui ne veut plus redescendre de la montagne après la transfiguration de Jésus, quand il propose à Jésus de bâtir, de planter des tentes là pour rester et pour profiter au maximum de ces instants bénis. Peut-être. Peut-être qu'ils sont réticents parce qu'ils ont senti, on se souvient que plusieurs d'entre eux sont des marins confirmés, peut-être qu'ils ont senti que le vent était en train de se lever sur le lac, que le temps était en train de changer et que la tempête allait bientôt se lever. Ce qui rend la traversée quand même hasardeuse. Peut-être. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'urgence. En effet, Jean, dans son texte parallèle, nous apprend que la foule, suite au miracle que Jésus vient de faire, les 5 pains et les 2 poissons, la foule veut s'emparer de Jésus pour en faire son roi. Voilà ce que nous dit le texte de Jean. Et si cela arrivait, alors ça serait littéralement la fin de la mission de Jésus. En effet, Jésus n'est pas venu pour monter sur un trône terrestre. Il est venu pour monter sur la croix. Il est donc primordial à ce moment-là que Jésus se mette à l'abri, que Jésus se préserve, que Jésus préserve sa mission et que Jésus préserve les disciples. En effet, s'il y a urgence pour Jésus à s'éloigner, il y a aussi urgence pour les disciples. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore, à ce stade-là, tout compris, loin s'en faut, de la mission de Jésus. Leur conception du Messie, à ce moment-là, ressemble très très certainement à la conception populaire de la foule, c'est-à-dire la conception d'un Messie guerrier venu pour chasser les Romains hors de Palestine, et donc cette conception-là qui, d'une certaine manière, amène la foule à vouloir faire de Jésus son roi. Et sans doute qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que les disciples soient contaminés par cette foule, et qu'ils se mettent eux aussi peut-être à vouloir faire de Jésus leur roi. Alors Jésus, verset 22, oblige les disciples à aller de l'autre côté du lac. Jésus, quant à lui, va renvoyer les foules, et quand ce sera fait, alors il va monter sur la montagne pour prier à l'écart, dit le texte. Et là encore, le texte ne donne pas de raison à ce retrait de Jésus. Et nous pouvons très certainement les supposer. Supposer, sans doute, à juste titre, que Jésus a besoin de repos. Si vous lisez les versets, les chapitres qui précèdent, vous allez voir que les événements se sont enchaînés les uns après les autres sans que Jésus ait pu souffler à aucun moment, sans temps mort. Jésus a besoin de repos. Et puis très certainement que Jésus va trouver là aussi une occasion pour enfin pleurer la mort de Jean-Baptiste. La mort de son cousin Jean-Baptiste, qui vient juste d'arriver. Et avec ces événements qui se sont enchaînés, Jésus n'a pas encore pu commencer son deuil. Et puis, bien évidemment, Jésus a besoin de communion avec son Père. Nous le savons, à bien des reprises, devant des décisions importantes, à des moments clés de son ministère, quand il fait face à la tentation, Jésus recherche la communion de son Père. Les disciples, quant à eux, sont sur le lac. Et la traversée va durer un peu plus longtemps que prévu. Et puis la tempête va se lever. Et à la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3 et 6 heures du matin, ils sont encore loin du rivage. Ils sont certainement là, quelque part au milieu du lac. Le texte dit à plusieurs stades. Et ils sont malmenés par les vagues avec un vent contraire. Ils sont dans la tempête. Et ils sont seuls, c'est-à-dire ils sont sans Jésus. Jésus qui les a obligés à embarquer pour aller droit dans la tempête. Jésus ne savait-il pas, lui qui sait toutes choses, que cette tempête allait se lever ? Il y aurait ici beaucoup de choses à dire sur ce qu'on appelle l'épreuve de la foi. Je passe dessus parce que j'aimerais avancer pour arriver à notre question. Ce que j'aimerais simplement dire en deux mots, c'est que l'épreuve de notre foi, qu'elle soit directement suscitée par Dieu ou qu'elle soit simplement permise par Dieu, n'échappe jamais à sa souveraineté. Alors le texte a déjà été lu dans l'apôtre Pierre où il nous est rappelé que Dieu se sert des épreuves, qu'il permet pour un temps pour purifier notre foi, la débarrasser de ses scories, afin qu'elle soit toujours plus à la louange, à la gloire et à l'honneur de Dieu. Alors les disciples font donc face à des circonstances difficiles. Et les questions qu'on peut se poser ici sont celles-là. Qu'ont-ils donc pensé à ce moment-là? Qu'ont-ils compris de l'absence de Jésus? Qu'ont-ils compris de cette obligation à embarquer pour aller droit dans la tempête? Est-ce qu'ils se sont sentis abandonnés par Jésus? Est-ce que nous nous sentons abandonnés par Jésus quand nous sommes dans nos tempêtes? Pour les disciples, c'est déjà ici l'apprentissage de l'absence physique de Jésus qui commence. Jésus qui ne les a pourtant pas oubliés. Jésus qui sait exactement ce qu'il en est et qui sait exactement où ils sont. Dans le texte parallèle de Marc, hop, je vois qu'elle est aussi capricieuse que celle qu'on a à l'église chez nous. Voyant qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire, vers la quatrième veille de la nuit, il vient vers eux. Alors, ou bien Jésus les avait en point de mire depuis la montagne où il était en train de prier, visuellement il les voyait là au milieu du lac, ou bien il savait leur situation parce qu'il est Dieu. La première hypothèse, elle est plausible, la seconde, elle est certaine. Alors qu'il les ait eus en point de mire ou pas, ce que nous comprenons clairement, c'est que Jésus savait. Jésus voyait. Jésus connaissait les circonstances traversées par les disciples. Donc non, il ne les a pas abandonnés. Et il va venir à leur secours. Et c'est vraiment un réconfort pour nous de savoir que même si Jésus est physiquement absent, ce qui est le cas pour chacun de nous aujourd'hui, il est parfaitement au courant de ce que nous vivons, parfaitement au courant des tempêtes que nous traversons. Il se soucie de nous et il nous offre son secours. Comme dans le récit de la tempête apaisée qui a précédé au chapitre 8, où Jésus, souvenez-vous, dort dans la barque, Jésus semble ici ne pas être en position de leur venir en aide. Il est loin. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Et il est facile de nous méprendre sur les intentions de Dieu, sur ce que Dieu peut et sur ce que Dieu veut faire dans notre vie. Jésus voit ses disciples en détresse et il vient à leur secours, excusez du peu, en marchant sur l'eau. C'est quand même pas commun. Et que se passe-t-il quand les disciples voient ce Jésus qui arrive, verset 26, ils sont troublés. Ils pensent qu'il s'agit d'un fantôme, littéralement dans le texte d'une apparition, et ils se mettent à pousser des cris. Ces grands gaillards là, ces grands pêcheurs, ces costauds là, qui se mettent à pousser des cris. Les disciples ne reconnaissent pas Jésus, et leur imagination, couplée à leur fatigue, fait le reste. Alors difficile de leur en vouloir, d'ailleurs on leur en veut pas. Mais reconnaissons quand même que c'était tout sauf une évidence que de voir, que d'imaginer voir Jésus arriver en marchant sur les eaux. En plus, des flots qui sont agités en plein milieu de la nuit avec un vent très fort. Et je me dis que parfois, nous expérimentons la même chose. Nous nous attendons à ce que Dieu agisse d'une certaine manière, conformément à nos schémas de pensée, nous en avons tous, et nous ne le reconnaissons pas quand il agit autrement, tellement nous nous attendons à ce qu'il agisse de cette manière-là. Mais la réalité, c'est que Dieu est toujours plus grand que nous, toujours plus grand que ce que nous avons compris de lui, bien évidemment, et toujours plus grand que tous nos schémas et que toutes nos compréhensions, quelles qu'elles soient. Et la réalité, c'est qu'il n'est jamais, jamais à court de ressources pour venir à notre secours. Et parfois même, de la manière la plus improbable, celle à laquelle nous n'aurions jamais pensé. Si on avait fait un sondage et demandé aux disciples auparavant comment Jésus pouvait venir à leur secours, il n'y en aurait aucun qui aurait pensé qu'il allait venir en marchant sur l'eau, bien évidemment. Jamais à court de ressources. Alors, il faut que j'avance, que le texte, les disciples sont terrorisés. Et ce que nous voyons dans le texte, c'est que Jésus va leur parler. Il va leur parler pour les rassurer. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Jésus veut les rassurer. Et je constate que Jésus les rassure par sa parole. Et c'est d'ailleurs souvent ainsi que Jésus nous rassure aussi, qu'il rassure ses enfants par sa parole. Notons ici qu'en se présentant à Jésus, à ses disciples, Jésus se présente comme Dieu. Vous l'avez sans doute remarqué, vous le savez certainement. En français, ça donne « c'est moi ». Littéralement en grec, c'est « je suis ». Jésus leur dit « je suis, n'ayez pas peur ». Et là, bien évidemment, on fait le lien avec ces textes de l'Ancien Testament où Dieu se présente ainsi à son peuple, en particulier au buisson ardent. Je suis, et puis dans d'autres textes aussi, au prophète Ésaïe. Et on constate que dans les évangiles, Jésus souvent parle ainsi. Jésus se présente souvent ainsi. Et il y a plusieurs paroles. Alors, les paroles bien connues, « Je suis le chemin, je suis la porte, je suis la vérité », etc. Et puis, il y a quelques textes dans l'évangile de Jean où Jésus utilise cette expression « je suis » et tout de suite après, les Juifs veulent le lapider. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bien compris qu'en disant « je suis », Jésus se fait l'égal de Dieu. Alors, quelle est la suite du récit ? Dans les trois évangiles qui rapportent cet épisode, de Jésus qui marche sur l'eau, Matthieu est le seul à rajouter la suite, c'est-à-dire ce qui nous est rapporté après le verset 28, avec Pierre qui marche sur l'eau. La suite où Pierre, alors on est habitué à ce que Pierre ne fasse pas tout à fait les choses comme les autres, Pierre va avoir cette demande tout à fait surprenante. J'essaye de ne pas réagir devant le texte comme quelque chose que je connais depuis des décennies, mais d'essayer vraiment de comprendre ce que je lis. C'est quand même une demande surprenante, non ? Pierre lui répondit, « Si c'est toi, Ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Mais quelle idée ! Mais quelle idée ! Et il y a sans doute que le Pierre des Évangiles, pour avoir une idée aussi surprenante, une idée aussi saugrenue, quand même, je ne sais pas si vous auriez eu cette idée, je pense que ça ne m'aurait même pas effleuré l'esprit. J'aurais attendu que Jésus monte dans la barque. Pourquoi aller marcher sur l'eau ? Alors, est-ce que c'est un élan de foi qui a poussé Pierre à parler ainsi ? Est-ce que c'est un élan du cœur ? Est-ce que c'est un élan de folie ? Le texte ne dit en rien, on va mettre ça sur le compte de la personnalité de Pierre, de son entièreté, de son impulsivité, de sa capacité à agir avant de réfléchir. Ça arrive assez souvent. Mais quand même, une fois qu'on a dit ça, on constate que Jésus ne lui fait aucun reproche, aucun reproche. Au contraire, Jésus prend Pierre au mot. Et il l'invite à venir vers lui. Et Pierre, dans cet élan de spontanéité, se jette à l'eau, ou plus précisément descend du bateau, pour aller à la rencontre de Jésus en marchant sur l'eau. Et l'incroyable se produit. Pierre marche sur l'eau. Alors que Jésus marche sur l'eau, moi, ça ne me surprend pas. Je trouve ça normal. Jésus, c'est Dieu. Donc, ça va avec. Mais que Pierre marche sur l'eau quand même, on est vraiment devant quelque chose de surprenant. Combien de mètres, combien de centimètres a-t-il fait ? Le texte ne donne pas de précision, mais le texte dit quand même qu'il est descendu et qu'il a marché. Qu'il a marché pour aller vers Jésus. Il marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Donc, ça veut dire qu'il... Il n'est pas seulement sorti du bateau puis il a commencé à couler, il a marché, il a vraiment marché, il a avancé. Les jeunes diraient, mes enfants, c'est juste énorme. Oui, c'est juste énorme, c'est juste énorme. Et puis soudain, tout change. Pierre s'est élancé sans réfléchir et quand il commence à réfléchir, quand il regarde autour de lui et qu'il voit les vagues qui se soulèvent, qu'il voit le vent, il prend alors conscience de la situation et il prend peur et il se met à couler. La question qu'il faut se poser ici, c'est pourquoi Pierre s'est-il mis à couler ? Est-ce que les vagues étaient à ce moment-là plus fortes qu'au moment où il est sorti du bateau ? Est-ce qu'il y a eu une grosse bourrasque qui l'a déstabilisé ? Est-ce que le vent était plus fort ? Il ne me semble pas que ce soit dans cette direction qu'il faille chercher une explication. Je pense personnellement, le texte ne semble pas aller dans un autre sens, que les circonstances, entre le moment où Pierre est sorti du bateau et le moment où il commence à couler, les circonstances sont les mêmes. La seule chose qui a changé à ce moment-là, c'est le regard de Pierre. C'est la seule chose que l'on comprend, en tout cas, dans le texte. Mais en voyant que le vent était fort. Pierre a vu que le vent était fort. Et il semblerait qu'au départ, Pierre n'ait pas prêté attention à cela. La seule chose qui a préoccupé Pierre, c'était Jésus. C'était rejoindre Jésus. Tout le reste ne comptait pas. Il n'a pas vu les vagues, il n'a pas vu le vent. Il n'a vu que Jésus. Et on pourrait peut-être dire ici que d'une certaine manière, Pierre a commencé par la foi, puis à un moment donné, il a voulu continuer par la vue. Et en regardant à ces circonstances, il a de fait cessé de regarder à Jésus. Il a pris peur et il a commencé à sombrer. Il me semble que nous ressemblons parfois, souvent peut-être, à Pierre. Combien il est facile de marcher par la foi, de commencer, et puis ensuite, à un moment donné, de laisser nos circonstances venir parasiter les choses, venir entraver notre marche par la foi. Combien facilement nous cessons de regarder à Jésus pour regarder à nos circonstances, pour regarder surtout aux difficultés, bien évidemment, que nous traversons. Et combien est pertinente la parole de l'Épître aux Hébreux qui nous dit, qui nous invite à courir la course de la foi en fixant les yeux sur Jésus et sur Jésus seul. Et ici, je crois que nous touchons du doigt ce qui nous permet d'avancer efficacement dans notre course de la foi ou dans notre marche de la foi, c'est-à-dire avoir et garder les yeux fixés sur Jésus. Il me semble que c'est bien ça et seulement ça qui va nous permettre de traverser nos tempêtes. Les tempêtes de notre vie, même celles que nous ne comprenons pas, et c'est certainement celles-là qui sont les plus difficiles, c'est en gardant les yeux sur Jésus que nous allons traverser les tempêtes de notre vie et nous allons le faire dans la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. En gardant les yeux fixés sur Jésus. Que s'est-il passé ensuite ? On arrive à notre question. Pierre s'est écrié « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt, verset 31, Jésus le saisit par la main et le sauve. Et là, je trouve cette image tellement belle de Jésus qui vient au secours de Pierre. Jésus aurait pu laisser Pierre se débrouiller, après tout. Il fallait peut-être qu'il apprenne la leçon. Oh, un petit bain, ça fait de mal à personne. Après tout, il n'avait qu'à persévérer. Et puis Pierre était pêcheur, il devait certainement savoir nager, etc. etc. Peut-être. Sauf que ce n'est pas ainsi que Jésus nous traite. Ce n'est pas ainsi. Parce que notre relation à lui n'est pas basée sur nos mérites. On le sait pour le salut. On l'oublie parfois pour la vie jour après jour. Notre relation n'est pas basée sur le mérite. Dieu ne vient pas à notre secours jour après jour parce que nous le méritons. Parce que nous avons été de bons petits soldats, de bons petits chrétiens qui ont tout bien fait. Non, Dieu vient à notre secours quand nous le lui demandons, quand nous crions à lui, il s'est engagé. Le psaume, on n'a que l'embarras du choix des textes dans la Bible, mais le psaume 48, un secours qui ne manque jamais, une aide qui se trouve toujours dans la détresse. Dieu vient à notre secours, mais simplement parce qu'il nous aime. Pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il nous aime, parce qu'il s'est engagé à le faire. Et parce qu'il ne veut pas que nous sombrions. Et c'est ainsi qu'on arrive enfin à notre question. Dans ce troisième et dernier point sur le doute et la foi. Alors que Jésus tend la main à Pierre et le sauve, il lui dit aussi, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Comment faut-il comprendre cette parole de Jésus ? Est-ce que c'est une parole sévère ? Ou pas. Et puis c'est quoi le doute ? Et puis c'est quoi la foi ? Et puis qu'est-ce que je fais quand le doute m'assaille ? Tout d'abord, brièvement, petite définition du doute, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Je me suis rendu compte en préparant ce message qu'on ne parlait pas très souvent du doute. On l'évoquait, mais on va rarement un peu au fond des choses. Le doute, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui est là en moi quand j'hésite, quand je suis indécis, quand je suis incertain. Ça, c'est le terreau du doute. Douter, c'est ne pas être sûr ou ne plus être sûr. Douter, c'est ne pas savoir ou ne plus savoir. Douter, c'est être dans l'incertitude au sujet de la réalité de quelque chose, d'un fait, ou alors au sujet de l'affirmation d'une vérité. Je ne sais plus si c'est vrai, si c'est pas vrai, s'il faut le croire, pas le croire. Mais ce que j'aimerais surtout souligner ici, c'est l'articulation qui existe entre la foi et le doute. Et ce que j'aimerais dire, c'est que la foi n'exclut pas le doute. Ce que je veux dire par là, c'est que avoir la foi ne veut pas dire que je ne peux pas douter à certains moments. En réalité, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas « j'ai la foi » ou « je doute ». La réalité, c'est que souvent, ces deux réalités cohabitent en nous, coexistent en nous. Ce qui ne peut pas coexister, c'est la foi et l'incrédulité. Parce que soit je crois, soit je ne crois pas. Et puis j'aimerais souligner ici ce que Jésus dit à Pierre, ou plutôt ce qu'il ne dit pas. Jésus ne dit pas à Pierre « homme sans foi ». Là, ça serait clair. Ça veut dire « il n'y a plus de foi, il y a le doute ». Mais il dit « homme de peu de foi ». Donc au moment où Pierre accueille le doute, il y a encore de la foi en lui. En fait, le doute, quand on y réfléchit un peu, on se rend compte assez vite que le doute est attaché à notre condition humaine pécheresse. Et qu'on peut remonter jusqu'au jardin d'Éden, jusqu'au commencement, où nous voyons le moment où le doute s'est invité dans l'équation de notre relation à Dieu. Au moment où le serpent a insufflé à Adam et Ève, est-ce que Dieu a réellement dit ? Est-ce que Dieu a réellement dit ça ? Pas sûr. Et c'est ainsi que le doute, depuis ce moment-là, fait intégralement partie de notre condition pécheresse. Nous doutons parce que nous sommes pécheurs. Nous doutons parce que nous sommes pécheurs. Et quand nous croyons, quand nous avons la foi, nous continuons quand même à être exposés au doute parce que nous sommes encore pécheurs. Même si nous sommes graciés, nous sommes encore pécheurs jusqu'au jour où nous serons dans la gloire. Alors ça veut, ce que je suis en train de dire ici ne veut pas dire que nous pouvons nous satisfaire de cette situation. Non, nous devons résister au doute. Nous devons exercer notre foi. Et nous devons dire et comprendre que le doute n'est pas une nécessité dans notre vie de foi. Ce n'est pas une obligation. Il existe, mais je dois lui résister comme je dois résister au péché dans ma vie. D'ailleurs, Paul, l'apôtre Paul, Romains 14, verset 23, va faire le lien entre le doute et le péché. Ne pas se satisfaire du doute dans sa vie, je pense que c'est une des implications de la question de Jésus. Alors justement, venons-en à cette question. Comment faut-il comprendre précisément la question de Jésus à Pierre ? Que traduisent les paroles de Jésus ? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Ça traduit quoi ? La colère, l'énervement, l'irritation de Jésus, la surprise ? Comment t'as douté ? Mais je croyais que t'étais plus fort que ça. Comment est-ce qu'il faut comprendre ? Est-ce que c'est un reproche que Jésus fait à Pierre ou pas ? Si c'est un reproche, de quelle nature est-il ? Est-ce que c'est un reproche sévère, empreint de sévérité, ou est-ce que c'est un reproche empreint de douceur ? Vous me voyez venir. Il me semble qu'il y a effectivement du reproche dans les paroles de Jésus, mais que c'est un reproche qui est plein de tendresse. Plein de tendresse. Jésus n'est pas en train de pointer du doigt Pierre en lui disant « Toi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il vient juste de lui tendre la main pour le sauver. Si reproche il y a, c'est un reproche très certainement empreint de tristesse, parce que Pierre n'y est pas arrivé, Jésus aurait aimé qu'il y arrive. C'est un reproche qui cherche à montrer à Pierre qu'un autre chemin était possible. Et c'est un reproche qui veut l'inviter à faire plus confiance la prochaine fois, à plus persévérer. Parce qu'en effet, l'enjeu qui est soulevé ici par la question de Jésus, ce n'est pas celui de l'existence ou pas du doute dans notre vie, mais c'est celui de ce que je fais ou ne fais pas quand le doute vient dans ma vie. En effet, qu'est-ce que je fais quand vient le doute ? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que je fais quand, dans ma marche chrétienne, arrive le moment où je commence à sombrer ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais quand la confiance en Dieu qui me portait jusque-là, tout d'un coup ne semble plus suffisante, commence à faire défaut et je me sens littéralement m'enfoncer dans les vagues de ma tempête. Pour répondre à cette question, il faut que l'on revienne à ce que nous avons dit au sujet du regard de Pierre. Parce que c'est quand Pierre a cessé de regarder à Jésus, c'est quand il a vu le vent qui était fort, qu'il a douté, qu'il a commencé à s'enfoncer, qu'il a cessé d'avancer et qu'il a oublié que Jésus était plus grand que le vent. La solution qui permet à la foi de l'emporter sur le doute, il n'y a pas 36 choses, c'est de continuer à regarder à Jésus. Pas la peine d'aller chercher autre chose. C'est de continuer à donner foi à sa parole et à ses promesses. C'est de continuer à faire le choix de la confiance. Quand Jésus dit à Pierre, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ce qu'il souligne, c'est que ça aurait pu être autrement. Ça aurait pu être autrement. Pierre aurait pu continuer de la même manière qu'il a commencé. S'il a fait 2-3 mètres sur l'eau, il aurait pu en faire 2-3 de plus, de la même manière. Il n'était pas nécessaire à ce moment-là de sombrer. Il aurait pu continuer dans cette même confiance en regardant à Jésus. Rien ne l'empêchait. Rien ne l'empêchait parce que rien n'avait changé. Entre le moment où il est sorti du bateau et le moment où il commence à s'enfoncer, rien n'a changé, la tempête est la même. Si reproche il y a, c'est celui de ne pas avoir continué dans la confiance, dans la foi. Et si la foi est petite à ce moment-là, c'est parce qu'elle a fait de la place au doute, tout simplement. Mais ça aurait pu être autrement. Rien n'avait fondamentalement changé, donc, entre le moment où Pierre est sorti du bateau et le moment où il commence à sombrer. Les circonstances sont les mêmes. Jésus est le même, la seule chose qui change, c'est donc le regard de Pierre. Un changement de regard qui en dit long quand même, qui traduit que sa confiance en Jésus vacille à ce moment-là. Pierre cesse à ce moment-là de faire entièrement confiance à Jésus. Et il laisse la vue de ses circonstances, la réalité de la tempête, venir s'immiscer, hein, venir questionner ce que Jésus pouvait faire. Parce qu'au final, douter, c'est quoi ? Douter, c'est manquer de confiance en ce que Dieu peut faire ou ce que Dieu peut encore faire. Chers amis, il me semble qu'il nous arrive assez souvent, parfois en tout cas, d'agir ainsi et de raisonner ainsi. Et comme Pierre, nous commençons quelque chose dans la confiance totale, avec une foi solide. Et puis nous laissons les circonstances venir questionner notre foi. Venir questionner Dieu, venir questionner son existence, sa bonté. Et alors nous disons, mais si Dieu est bon, si Dieu existe, s'il m'aime, pourquoi permet-il cette épreuve ? Pourquoi est-ce qu'elle dure ? Pourquoi est-ce que le vent de la tempête que je suis en train de subir est-il aussi fort ? Pourquoi Dieu ne semble pas répondre à mes prières ? Pourquoi a-t-il permis que cet être cher meure ? Etc., etc. Alors j'aimerais faire ici une remarque qui me semble être de bon sens. Quand je suis dans la confiance à Dieu, avec des circonstances qui ne me bousculent pas trop, qui ne bousculent pas ma foi, et je focalise en regardant sur Jésus, tout va bien. À ce moment-là, il y a cependant toujours, toujours, près de moi, un chrétien, une chrétienne, un frère, une sœur en Christ, qui est lui ou elle bousculé par les circonstances qu'il ou elle traverse, n'est-ce pas ? Mais donc, ça veut dire que par souci de cohérence, ça devrait aussi me bousculer. ça devrait aussi bousculer ma foi. Parce que si les circonstances difficiles disaient quelque chose sur Dieu et sur la confiance que je peux ou pas mettre en lui, alors je ne devrais jamais faire confiance à Dieu parce qu'il y a toujours un enfant de Dieu qui souffre quelque part. Vous me suivez ? Alors pourquoi est-ce que je questionne la bonté de Dieu seulement quand les difficultés me concernent ? Je devrais le faire aussi quand elles concernent mon frère ou ma sœur en Christ. Parce que la réalité, c'est que soit Dieu est bon, soit il ne l'est pas. Et ça n'a rien à voir avec les circonstances. La réalité, c'est que soit les promesses de Dieu sont vraies, soit elles ne le sont pas. Et ça n'a rien à voir avec nos circonstances. Il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Je ne vais pas rentrer maintenant dans ces considérations-là. Alors, cette petite démonstration qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, elle a pour but de nous faire comprendre que nous n'avons aucune raison de douter de Dieu quand nos circonstances deviennent épreuves. Alors oui, bien sûr, il y a des choses ici-bas que nous ne comprenons pas. Et il y a des choses ici-bas que nous ne comprendrons jamais. Mais la réalité, c'est que Dieu reste le même indépendamment de mes circonstances. Indépendamment de mes circonstances. Et comme on le chante parfois, je ne sais pas si vous le chantez ici, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Hein, bénis l'Éternel, mon âme. Sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Nous le chantons, est-ce que nous le vivons ? Alors le doux reproche que Jésus fait à Pierre, et je crois dans cette ligne-là. Jésus veut lui faire comprendre qu'il n'avait aucune raison de changer en cours de route. Il n'avait aucune raison d'arrêter de faire confiance à Jésus. Il n'avait aucune raison de valoriser le doute à ce moment-là et donc de sombrer. Oui, Pierre aurait pu agir autrement. Il aurait pu rester dans la confiance. C'était une question de choix et il a fait le choix. Il a fait le choix du doute plutôt que celui de rester dans la confiance entière à Jésus. Alors, chers amis, là j'arrive au bout. Pour moi, cette histoire, ce n'est pas l'histoire d'une énième faiblesse de Pierre, comme on aime souvent, c'est Pierre, ouais, Pierre qui fait tellement de bêtises, etc., dans les évangiles. Mais c'est pour moi l'histoire d'un défi. Le défi de continuer et de terminer dans la confiance. C'est bien de commencer dans la confiance. C'est encore mieux de continuer et de terminer dans la confiance. Et ça, malgré les circonstances. Il est vrai qu'ils sont parfois difficiles dans nos vies. Mais nous pouvons continuer comme nous avons commencé, parce que Dieu ne change pas et parce que ses promesses restent toujours vraies. Alors, comment se termine notre histoire ? Elle se termine avec Pierre et Jésus qui montent dans le bateau et le vent cesse. Et verset 33, nous lisons qu'ils se sont prosternés devant lui et ils ont dit « Tu es véritablement fils de Dieu ». Superbe confession. Et je crois que ce jour-là, sur ce bateau-là, cette petite embarcation au milieu de l'eau, au petit matin, la foi des disciples a grandi. Ils ont compris quelque chose, très certainement. Elle a fait un bond en avant, elle s'est affermie, et leur compréhension de qui est Jésus aussi. Et on pourrait dire que l'épreuve de leur foi a porté du bon fruit. Alors, chers amis, je ne sais pas, personnellement, si vos circonstances du moment sont paisibles, ou bien peut-être tempétueuses, je ne sais pas, peut-être que c'est calme pour vous en ce moment. Peut-être que les vagues sont très hautes, très fortes, je ne sais pas. Mais ce que je sais par contre, c'est que Jésus n'est jamais très loin de nous. Jésus n'est jamais très loin de nous. Ce que je sais, c'est qu'il est toujours le même, indépendamment de nos circonstances. Et ce que je sais aussi, c'est qu'il est toujours prêt à nous secourir et qu'il mérite notre confiance en toutes circonstances. Parce qu'il est véritablement fidèle. Fils de Dieu. Amen.